Encore la religion. Après une promenade sous la pluie torrentielle, où il se querelle avec M. Geoffroy sur les mystères, les miracles et les martyrs, Pécuchet retrouve Bouvard. La casquette de Pécuchet posée devant les charbons n'était pas sèche encore. Tout en l'étirant, il sentit quelque chose dans la doublure et une médaille de Saint-Joseph tomba. Ils furent troublés, le fait leur paraissant inexplicable. Madame de Noailles voulut savoir de Pécuchet s'il n'avait pas éprouvé comme un changement, un bonheur, et se trahit par ses questions. Une fois, pendant qu'il jouait au billard, elle lui avait cousu la médaille dans sa casquette. Évidemment, elle l'aimait, ils auraient pu se marier, elle était veuve, et il ne soupçonna pas cet amour qui, peut-être, eût fait le bonheur de sa vie. Bien qu'il se montrât plus religieux que M. Bouvard, elle l'avait dédié à Saint-Joseph, dont le secours est excellent pour les conversions. Personne comme elle ne connaissait tous les chapelets, les indulgences qu'il procure, l'effet des reliques, les privilèges des eaux saintes. Sa montre était retenue par une chaînette qui avait touché au lien de Saint-Pierre. Parmi ses breloques luisait une perle d'or, à l'imitation de celle qui contient dans l'église d'Aloigne une larme de notre Seigneur. Un anneau à son petit doigt enfermait des cheveux du curé d'Ars, et comme elle cueillait des simples pour les malades, sa chambre ressemblait à une sacristie et à une officine d'apothicaire. Son temps se passait à écrire des lettres, à visiter les pauvres, à dissoudre des concubinages, à répandre des photographies du Sacré-Cœur. Un monsieur devait lui envoyer de la pâte des martyrs, mélange de cire pascale et de poussière humaine prise aux catacombes, et qui s'emploie dans les cas désespérés en mouches ou en pilules. Elle en promit à Pécuchet. Il parut choqué d'un tel matérialisme. Le soir, un valet du château lui apporta une hotée d'opuscules, relatant des paroles pieuses du grand Napoléon, des bons mots de curé dans les auberges, des morts effrayantes advenues à des impies. Madame de Noailles savait tout cela par cœur, avec une infinité de miracles. Elle en comptait de stupides, des miracles sans but, comme si Dieu les eût faits pour ébahir le monde. Sa grand-mère, à elle-même, avait serré dans une armoire des pruneaux couverts d'un linge, et quand on ouvrit l'armoire un an plus tard, on en vit 13 sur la nappe, formant la croix. « Expliquez-moi cela !» C'était son mot, après ces histoires, qu'elle soutenait avec un entêtement de bourrique, bonne femme d'ailleurs, et d'humeur enjouée. Une fois pourtant, elle sortit de son caractère. Bouvard lui contestait le miracle de Persilia, un compotier, où l'on avait caché des hosties pendant la Révolution, se dora de lui-même, tout seul. Peut-être y avait-il au fond un peu de couleur jaune, provenant de l'humidité. Mais non, je vous répète que non. La dorure a pour cause le contact de l'Eucharistie. Et elle donna en preuve l'attestation des évêques. C'est, disent-ils, comme un bouclier, un palladium sur le diocèse de Perpignan. Demandez plutôt à M. Geoffroy. Bouvard n'y tint plus, ayant repassé son Louis Hervieux, emmena Pécuchet. L'ecclésiastique finissait de dîner. Rennes offrit des sièges et, sur un geste, alla prendre de petits verres qu'elle emplit de rossolio. Après quoi, Bouvard exposa ce qui l'amenait. L'abbé ne répondit pas franchement. « Tout est possible à Dieu, et les miracles sont une preuve de la religion. » Cependant, il y a des lois. Oh, cela n'y fait rien. Il les dérange pour instruire, corriger. Que savez-vous s'il les dérange ? Répliqua Bouvard. Tant que la nature suit sa routine, on n'y pense pas. Mais dans un phénomène extraordinaire, nous voyons la main de Dieu. Elle peut y être, dit l'ecclésiastique, et quand un événement se trouve certifié par des témoins, les témoins gobent tout, car il y a de faux miracles. Le prêtre devint rouge. Sans doute, oui, quelquefois. Comment les distinguer des vrais? Et s'il est vrai, donnez-en preuve, ont eux-mêmes besoin de preuves, pourquoi en faire ? Rennes intervint, et prêchant comme son maître, dit qu'il fallait obéir. La vie est un passage, mais la mort est éternelle. Bref, ajouta Bouvard en lampant le rossolio, les miracles d'autrefois ne sont pas mieux démontrés que les miracles d'aujourd'hui. Des raisons analogues défendent ceux des chrétiens et des païens. Le curé jeta sa fourchette sur la table. Mais cela était faux encore un coup. Pas de miracle en dehors de l'Église. Tiens, se dit Pécuchet, même argument que pour les martyrs. La doctrine s'appuie sur les faits et les faits sur la doctrine. Monsieur Geoffroy, ayant bu un verre d'eau, reprit. Tout en les niant, vous y croyez ? Le monde que convertissent 12 pécheurs, voilà, il me semble, un beau miracle. Pas du tout. Pécuchet rendait compte d'une autre manière. Le monothéisme vient des Hébreux, la Trinité des Indiens, le Logos est à Platon, la Vierge Mère à l'Asie. N'importe, monsieur Geoffroy, tenait au surnaturel, ne voulait que le christianisme, put avoir humainement la moindre raison d'être, bien qu'il en vit chez nous tous les peuples, des pogroms ou des déformations. L'impiété railleuse du XVIIIe siècle, il l'eût toléré, mais la critique moderne, avec sa politesse, l'exaspérait. J'aime mieux l'athée qui blasphème que le sceptique qui ergote. Puis il les regarda d'un air de bravade. Comme pour les congédier. Pécuchet se retourna mélancolique. Il avait espéré l'accord de la foi et de la raison. Bouvard dut finir ce passage de Louis Hervieux. Pour connaître l'abîme qui les sépare, opposez leurs axiomes. La raison vous dit, le tout enferme la partie. Et la foi vous répond par la substantiation. Jésus, communiant avec ses apôtres, avait son corps dans sa main et sa tête dans sa bouche. La raison vous dit, on n'est pas responsable du crime des autres, et la foi vous répond par le péché originel. La raison vous dit, 3, c'est 3, et la foi déclare que 3, c'est 1. Et ils ne fréquentèrent plus l'abbé. Pour éviter ces conférences, ils arrivaient au château le plus tard possible, un jour pourtant. Ils l'y trouvèrent. Depuis une heure, il attendait ses deux élèves. Tout à coup, Madame de Noailles entra. La petite a disparu. J'amène Victor, oh, le malheureux. Elle avait saisi dans sa poche un dé d'argent perdu depuis 3 jours. Puis, suffoquée par les sanglots, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Pendant que je le grondais, il m'a montré son derrière. Et avant que le comte et la comtesse aient rien dit, « Du reste, c'est de ma faute, pardonnez-moi. » Elle leur avait caché que les deux orphelins étaient les enfants de Touache, maintenant au bagne. Que faire ? Si le comte les renvoyait, ils étaient perdus, et son acte de charité passerait pour un caprice. Monsieur Geoffroy ne fut pas surpris. L'homme étant corrompu naturellement, il fallait le châtier pour l'améliorer. Bouvard protesta, la douceur valait mieux. Mais le comte, encore une fois, s'étendit sur le bras de fer, indispensable aux enfants comme pour les peuples. Ces deux-là étaient pleins de vices, la petite fille menteuse, le gamin brutal. Ce vol, après tout, on l'excuserait, l'insolence jamais. L'éducation devant être l'école du respect. Donc Sorel, le garde-chasse, administrerait au jeune homme une bonne fessée immédiatement. Monsieur de Mahureau, qui avait à lui dire quelque chose, se chargea de la commission. Il prit un fusil dans l'antichambre et appela Victor, resté au milieu de la cour, la tête basse. « Suis-moi, » dit le baron. Comme la route pour aller chez le garde détournait peu de Chavignol, Monsieur Geoffroy, Bouvard et Pécuchet l'accompagnèrent. À 100 pas du château, il les pria de ne plus parler, tant qu'ils longeraient le bois. Le terrain dévalait jusqu'au bord de la rivière où se dressaient de grands quartiers de roches. Elles faisaient des plaques d'or sous le soleil couchant. En face, les verdures des collines se couvraient d'ombre. Un air vif soufflait. Des lapins sortirent de leur terrier et broutaient le gazon. Un coup de feu partit, un deuxième, un autre, et les lapins sautaient, déboulaient. Victor se jetait dessus pour les saisir et haletait, trempé de sueur. « Tu arranges bien tes nippes, » dit le baron. Sa blouse en loques avait du sang. La vue du sang répugnait à Bouvard. Il n'admettait pas qu'on en pût verser. Monsieur Geoffroy reprit « Les circonstances, quelquefois, l'exigent. Si ce n'est pas le coupable qui donne le sien, il faut celui d'un autre. Vérité que nous enseigne la rédemption. » Suivant Bouvard, elle n'avait guère servi, presque tous les hommes étant damnés, malgré le sacrifice de notre Seigneur. Mais quotidiennement, il le renouvelle dans l'Eucharistie. Et le miracle, dit Pécuchet, se fait avec des mots, quelle que soit l'indignité du prêtre. Là est le mystère, monsieur. Cependant, Victor clouait ses yeux sur le fusil, tâchait même d'y toucher. À bas les pattes. Et M. de Mahureau prit un sentier sous bois. L'ecclésiastique avait Pécuchet d'un côté, Bouvard de l'autre, et lui dit